Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Bonjour à tous, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. Alors aujourd'hui on est en compagnie de Denis Michael, qui est réalisateur, mais qu'on a connu déjà comme invité en tant que directeur de France Nature Environnement Île-de-France, et puis de Mokhtar Diouf, qui est enseignant-chercheur à Paris-Sorbonne, qui est géographe et biogéographe, et qui vont tous deux nous parler d'agriculture, mais d'agriculture un petit peu différente, l'agriculture alternative, va-t-on dire, à l'agriculture intensive, là, qui devrait fêter je ne sais pas si elle va les fêter, mais ses 70 ans de massacrage. Et donc se pose la question, est-ce que ce moyen d'alimenter la planète est vraiment durable ? Alors bon, il y a plein d'alternatives, et donc l'agriculture biologique, je le disais, et puis l'agriculture urbaine qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine ? On peut se poser beaucoup de questions. Donc voilà. Alors, pour commencer, Ben aurait aimé vous présenter sa rubrique, mais bon, il est empêché, ce coup-ci il est malade. Alors, ceci étant, il m'a envoyé son sujet, et c'est vrai qu'il avait des choses intéressantes à dire, notamment, pour commencer, pour rappeler que Antonio Guterres, je ne sais pas si vous l'avez entendu, refuse qu'on célèbre le 80e anniversaire de l'ONU, parce qu'il considère que la situation internationale ne se prête pas vraiment aux festivités. Alors c'est vrai, je pense qu'il a parfaitement raison, c'est une question de bon sens. Ça aurait été assez honteux de fêter cet anniversaire-là. Ensuite, il voulait nous parler des bases militaires. Alors c'est vrai que c'est son dada, Ben, les bases militaires, tout ce qui est militaire. Mais là, il voulait nous en parler en Antarctique et nous dire que grosso modo, la France avait du mal à rénover sa station Dumont-d'Urville en Terre Adélie, qu'il fallait 100 millions d'euros à peu près pour refaire les isolations et autres perfectionnements, et puis que Emmanuel Macron, malgré toutes ses promesses, ne réussissait pas à sortir les sous, alors qu'on voit pourtant que l'Antarctique devient la proie des appétits de gens aussi calmes que les Chinois, donc effectivement, il n'y a pas que les Chinois d'ailleurs, il y a les Russes, il y a les États-Unis, il y a la Norvège qui veut investir 180 millions, il y a la Grande-Bretagne qui s'apprête à mettre 140 millions pas sur la table, mais plutôt sur le plateau antarctique. Et puis il y aurait même l'Inde qui a des velléités d'installer une base de 140 personnes. Donc effectivement, les nouveaux prédateurs veulent s'installer sur le continent blanc. Pendant ce temps-là, la France est en train de rater le coche. Bon, voilà donc les points que voulait nous transmettre Ben. Il voulait aussi nous parler d'une initiative de Yann Verling. Alors Yann Verling, c'est non seulement un dessinateur de bande dessinée, mais c'est aussi un ancien dirigeant des écologistes, et puis aujourd'hui un allié de Valérie Pécresse au Conseil régional, et qui aurait eu l'idée de regrouper toutes les COP une seule opération, qui voudrait lancer. Donc Ben me disait qu'il voulait faire commémorer le sommet de la Terre 50 ans après, donc en 2032, créer une méga COP pour regrouper toutes les grands sujets. Et on peut se dire que c'est pas forcément idiot, ça pourrait peut-être donner un horizon, et on pourrait peut-être se concentrer et se focaliser sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, si on s'aperçoit que c'est un petit peu le grand épuisement des ressources, c'est aussi le grand épuisement des idées, ça pourrait être un moyen de relancer l'affaire. Bon, ceci étant, ça nous laisse quand même quelques années pour envisager la chose, et on va commencer peut-être par parler de choses plus terre à terre et parler d'agriculture excusez-moi, d'agriculture biologique avec Michaël Denis. Alors Michaël, donc tu nous as surpris, tu n'es pas simplement un organisateur des associatifs, tu es aussi un réalisateur et t'es venu l'idée de faire un film sur les agriculteurs biologiques. Alors déjà pour commencer, mais quelle idée t'as pris quoi ?
Alors c'était avant d'arriver à France Nature Environnement Île-de-France et à la fin de mon poste précédent. Déjà je voulais souffler un petit peu, à la base ça partait sur juste des vacances et j'ai un petit peu glissé. J'avais l'idée de faire un tour de France déjà, mais j'avais pas encore de sujet précis en tête, et c'est suite à une conférence d'Arthur Keller qui aime bien faire des conférences pour remuer un peu les gens, pour expliquer à quelle vitesse on va dans le mur et que la force de l'impact dépendra de notre capacité à appuyer sur le frein. Et comme en ce moment, on est plutôt en train de scier les câbles de frein, ça peut faire un peu peur. Et dans ce cas-là, le sujet de l'alimentation sera central. Et donc, c'est là où je me suis pris un peu une baffe et je me suis dit, oui, la question alimentaire, c'est celle que j'ai envie de creuser. Et donc, ce Tour de France, je l'ai fait en allant voir des fermes bio, donc qui essaient d'inventer une autre manière de produire, mais sans non plus tomber dans l'angélisme du petit maraîcher sur 2000 m² qui produit juste assez pour trois voisins. Je voulais qu'il y ait quand même une certaine crédibilité dans la production alimentaire.
Oui, parce qu'il y a quand même 68 millions de Français à nourrir.
Voilà. Et donc je voulais aider céréaliers aussi. Alors c'est plus compliqué à trouver en bio, mais il y en a. Des éleveurs, laitiers notamment, de la polyculture élevage. Je voulais faire un petit panel comme ça, représentatif de l'agriculture d'aujourd'hui. Et voilà, et j'ai été un peu dépassé par le projet. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires.
Mais t'étais déjà cinéaste de...
Une fois, ouais, j'avais fait une vidéo de vacances au ski.
D'accord.
Donc non, pas du tout, je partais vraiment de zéro.
Non, parce qu'il faut dire quand même que Michaël nous a surpris, donc c'est pas un clip que t'as fait, c'est combien de minutes déjà ?
C'est 1h18.
1h18.
Il y avait 30 heures de rush. Réduit à 5 heures de pépites vraiment sélectionnées. Et voilà, après c'est un petit peu l'exercice difficile de couper pour vraiment laisser
le montage. Je crois que t'as été aidé pour le montage.
J'ai eu un petit coup de pouce du destin, ouais. Oui. Par hasard à un apéro, j'ai croisé Yann Arthus Bertrand.
Ah oui.
Qui m'a demandé ce que je faisais, donc j'ai expliqué. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Il m'a demandé à voir le film. Il l'a vu dès le lendemain. Il l'a aimé. Il en a parlé autour de lui et il m'a mis en lien avec ses équipes, qui m'ont du coup accompagné pour refaire une version du montage, et puis avec vraiment des pros, étalonnage, mixage, donc il y a un rendu vraiment super pro au final. Donc merci à lui pour ce petit coup de pouce.
Écoute, oui, c'est une personne qu'on connaît. Et donc, la première diffusion, c'est quand ?
Alors, comme je ne suis pas du tout du métier, je découvre les difficultés à chaque étape, et celle de la diffusion n'est pas... la plus petite, mais l'avant-première en tout cas aura lieu à l'Assemblée nationale. J'ai eu la chance d'avoir une députée qui s'est beaucoup mobilisée sur la loi d'orientation agricole, qui a accepté de nous recevoir pour une interview et qui, après avoir vu le documentaire, a accepté d'organiser l'avant-première, de nous inviter à l'Assemblée nationale. Donc c'est une petite salle, 94 personnes, mais juste pour le symbole, je trouvais ça chouette. Les premiers paysans qui sont dans le documentaire à qui j'ai dit qu'on avait l'avant-première à l'Assemblée nationale et qu'ils étaient invités étaient fous de joie en me disant « Mais Michaël, tu te rends pas compte, ça fait des mois avec toutes les manifs où on essaie d'aller à l'Assemblée et que personne nous reçoit, toi tu nous invites ». Donc même si j'ai tempéré un peu leur enthousiasme en expliquant qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de députés et que voilà, ça n'allait pas changer
la face du monde.
Mais en tout cas, voilà, et ça leur donne quand même une super occasion de au moins pouvoir s'exprimer. Ils en ont gros sur la patate. Souvent, on parle d'agriculture, mais en fait, c'est jamais les premiers concernés qui en parlent. Et moi, c'était vraiment ma volonté dans le documentaire de donner la parole aux premiers concernés.
Et parce là, que voilà. Oui, il y a une phrase d'un de tes agriculteurs dans le film, dans la bande-annonce, j'ai pas encore eu le plaisir de voir l'heure 18, qui dit, on parle beaucoup des revenus des agriculteurs, ils ont du mal à vivre, mais ils sont entourés de gens qui en vivent très bien. Donc effectivement, il y a des paradoxes. Il va falloir peut-être aussi être un peu plus, discerner un peu plus ces choses. Quand on parle d'agriculture, c'est vrai que c'est aujourd'hui une grande confusion avec un mélange des genres invraisemblable.
Tout à fait. Et puis la question du revenu, moi, c'est celle que j'ai mis au cœur du documentaire, en tout cas pour lancer les échanges, parce que quand on tire ce fil-là, après, on traite de tous les autres sujets. Mais la question du revenu, elle est centrale. C'est quand même dingue que ceux qui nous nourrissent n'arrivent pas à vivre de leur métier. Et c'est la revendication première. Et à chaque fin de manif, on annonce plein de réformes qui vont détricoter souvent toutes les contraintes environnementales. Et on n'adresse jamais la question de fond qui est le revenu. Il y a une loi Egalim qui était censée améliorer ça. Elle est mal appliquée, ça ne marche pas. Et donc, cette question-là, elle est vraiment centrale si on veut, en fait, pouvoir donner des marges de manœuvre aux agriculteurs pour améliorer leurs pratiques. S'ils sont sur la corde raide en permanence, qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur métier, on ne peut pas leur demander plus que ça.
C'est clair, mais ceci étant, il faut faire attention parce que le terme de revenu, il est un peu aussi dévoyé par moment. On parle aussi de compétitivité agricole en laissant comprendre que plus on va produire, plus on va pouvoir avoir d'argent ou du moins bien vivre. Tout un chacun a compris que ce terme de compétitivité, c'était pour une agriculture dopée, quoi. Donc il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, l'agriculture vit carrément sous doping. Je veux bien qu'on fasse la compète, mais pas sous dopage. Et effectivement, c'est peu dénoncé, ça. Alors que plus ça va, plus on s'aperçoit que les retombées sanitaires sont énormes. Je crois qu'on est à plus de. On va approcher cet été les 2000 dossiers de maladies professionnelles reconnues pour des maladies dues aux pesticides, mais dans le plus grand silence. Le plus grand silence. Ça, c'est pas très vieux, hein, ça fait 4 ans de mémoire que. Non, 4 ans de mémoire que ce fonds de reconnaissance existe, et ça fait toujours pas scandale. On est à peu près au même rythme de reconnaissance de maladies professionnelles que pour l'amiante. Quand on voit le scandale de l'amiante et le déni absolument incroyable sur les maladies dues aux pesticides, ça fait encore partie de ces impostures qui me scandalise.
Ah bah, t'as raison de le rappeler. C'est sûr que c'est un cadre qui est posé, et notamment par la PAC depuis quelques décennies, d'organiser tout le système pour qu'ils produisent un maximum pour exporter, à l'origine pour nourrir le monde, maintenant plutôt pour amener des devises. Et ce système-là a poussé, par l'intensification, à utiliser massivement engrais et pesticides. Et les agriculteurs sont les premières victimes de ça. C'est eux, en premier, qui ont des taux de cancer et de maladies neurodégénératives bien supérieurs à la moyenne de la population, mais aussi polluent les cours d'eau, les zones de captage en eau potable, les personnes alentour. Récemment, là, à La Rochelle, on a découvert un cluster de cancers d'enfants. Des taux totalement anormaux d'enfants qui ont des cancers.
Ouais, ça date d'une quinzaine de jours. Ouais. Mais effectivement, La Rochelle, qui se trouve être c'est presque symbolique, puisque La Rochelle, c'est le premier port céréalier à la Palisse qui exporte la moitié de la moisson française est exportée. Alors pas forcément que par La Rochelle, puisque la moitié de cette moitié va pour nos voisins européens, et l'autre moitié, ben là je me tourne vers Mokhtar, va ce qu'on appelle le grand export, qui était dans un premier temps essentiellement concentré sur le Maghreb, et puis sur l'Afrique subsahélienne, comme on dit, l'Afrique noire, comme on disait avant. Et d'ailleurs, comment vous dites-vous? Parce que Mokhtar, dis-moi, t'es quand même du Sénégal ou...
Oui, je suis du Sénégal.
Allez, à vous tout.
Oh, on peut dire l'Afrique subsaharienne aussi.
Voilà, ouais, ça, le bon terme. Ouais. Excuse-moi, mais de temps en temps, j'oublie mes bases. oui, c'est une petite transition, mais on va attendre la musique pour pouvoir la faire, pour parler du Sénégal, l'agriculture urbaine, mais l'agriculture urbaine est aussi française, puisque tu l'étudies à Paris.
J'étudie à Paris et on va en parler de manière globale.
Voilà, c'est ça, on va en parler de manière globale. Et puis on reviendra sur Michael par la suite.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Sur Aligre FM, toujours en compagnie de Michael Denis et de Mokhtar Diouf. Donc on parle d'un film sur l'agriculture biologique, et on parle aussi d'agriculture urbaine en Afrique et en France, mais on va continuer un petit peu sur les agriculteurs biologiques. Alors Michael, tu en as vu combien pour faire ce film ?
Alors quand je suis parti, je m'étais imaginé 10 et au final une quinzaine.
D'accord. Et donc, c'est des conversations. Tu as pris combien de temps avec eux ? Ça se préparait ou...
Alors, c'était assez variable. Au plus court, je suis resté 2 heures. Au plus long, 4 jours.
Ah oui, quand même.
Je devais enchaîner tout ça en 1 mois et demi. Donc, je les suivais un petit peu dans le travail au quotidien pour faire notamment les images d'illustration. Mais après, en phase d'interview, l'idée, c'était vraiment de les laisser dérouler. Donc, écoute active, lancer juste une question générale et vraiment les laisser prendre le temps de
leur sac.
Ouais, exactement. Et franchement, il y a ça. Parce que tu te rends compte qu'ils en ont gros sur la patate et que personne ne les écoute. Et que là, ça leur faisait du bien de pouvoir...
Oui, parce qu'ils sont un peu invisibilisés, les agriculteurs bio, mine de rien. Parce que bon, ils ne vont pas aller fermer les manifs avec les tenants de l'agriculture chimique.
Mais même les agriculteurs, d'une manière générale, ils ont les syndicats qui parlent pour eux.
Oui.
Mais les agriculteurs de base, on leur donne assez peu la parole. Et dans les syndicats, c'est souvent les mêmes, c'est des grands céréaliers qui n'ont pas les mêmes intérêts que... En fait, il y a plein d'agricultures différentes. Le petit maraîcher ou l'éleveur, on ne parle pas du tout de la même chose. Par exemple, avec les aides de la PAC qui sont à l'hectare et qui favorisent les grandes cultures céréalières.
Oui, alors donc... Bon, tu parlais de la FNSEA, on ne va pas se le cacher. Alors, il faut savoir qu'à la FNSEA, il y a un deal entre les céréaliers et puis les éleveurs. Et un coup, c'est un céréalier qui préside, donc là, c'est M. Rousseau. Et avant, c'était Mme Lambert. Et c'est pas le hasard. C'est pas dû à des votes. C'est un rapport de force et c'est aussi la GPB... Qui est donc la GPB, donc l'association des producteurs de blé, qui tient les choses et qui vont imposer. Bon, ça date d'avant-guerre. On ne s'imagine pas à quel point c'est ancré dans le passé, à quel point ce fonctionnement est extrêmement ancré dans le rapport de force politique. Quoi. C'est absolument pas. C'est pas du tout les mouvements sociaux qu'on imagine. Mais bon, on va pas développer sur tout à fait, c'est pas le sujet. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit, à part effectivement gagner un peu mieux leur vie?
En fait, ils listent toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Donc effectivement, il y a l'amas de tracasseries administratives auxquelles ils sont confrontés.
Même en agriculture biologique.
Et ils me disent, moi je dois être expert à la fois des cours d'eau, du foncier, de la fiscalité, parce qu'ils ont des contrôles et on les challenge sur des trucs hyper précis. Mais sur la question du revenu, eux essaient de faire mieux, de ne pas polluer les cours d'eau, de planter des haies qui vont être favorables à la biodiversité.
Il faut rappeler que favorable à la biodiversité, donc c'est un moyen écosystémique de remplacer les pesticides. Ouais. C'est pas que pour faire joli, quoi.
Et puis c'est le sujet majeur, l'agriculture industrielle, c'est la première cause d'effondrement de la biodiversité, notamment par les pesticides qui vont tuer les insectes et donc faire disparaître les oiseaux qui s'en nourrissent.
Alors il y a un bouquin qui vient de sortir, pourra-t-on se passer de pesticides en 2050 ? C'est un bouquin qui est sorti sur des éditions Kouaé de l'INRA. Et donc c'est effectivement un grand défi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet dont on a parlé ces derniers temps à l'Assemblée nationale. C'est avec M. Duplomb, ça a plutôt été de couler tous ces projets d'agriculture environnementale, quoi. Mais donc effectivement, ça, on commence à réfléchir. Donc l'INRA travaille sur ces hypothèses-là. Alors c'est vrai que les agriculteurs biologiques, ils voient les choses un peu différemment. Ça fait depuis 1920 que l'agriculture biologique existe, même si t'as pas vu des gens de 1920, j'imagine. Ils avaient quel âge, les agriculteurs ?
Alors je sais pas quel âge avait le plus jeune, 27 ans à peu près. Et jusqu'à 45.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle des agriculteurs de la force de l'âge, quoi.
Oui, issus du milieu agricole ou pas. Il y en a un, c'était au moins la troisième génération d'éleveurs laitiers, et d'autres qui étaient anciens ingénieurs chez Dassault, reconvertis dans le maraîchage.
Ah oui.
Un maraîcher municipal, d'ailleurs, initiative intéressante. Il y a de plus en plus de municipalités qui font ça, préempte des terres agricoles et qui embauche un agent municipal qui va être maraîcher pour fournir en légumes ultra locaux et bio les cantines municipales.
Et alors ça va nous amener à une transition avec Boclard. Tu notes hein, toutes les toutes les possibilités de toutes les passerelles qu'on est en train de te proposer, mais ce mouvement, il est important, justement, ces municipalités agricoles
Le maraîchage municipal, c'est assez récent, mais il y a eu cette année la première rencontre nationale, et je crois qu'on est à plus d'une centaine aujourd'hui.
D'accord, donc, parce que le problème de l'agriculture biologique, ça a pu être vécu quelquefois comme une manière un peu ésotérique, on va parler de... la très ancienne génération de l'agriculture biologique. Et puis après, ça restait quand même un peu marginal malgré tout. En tout cas, ça avait du mal à pouvoir proposer un modèle généralisable.
Alors, sur l'ésotérisme, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a interviewé les agriculteurs pour que ce soit eux qui parlent en premier lieu, mais il y a deux exceptions dans le documentaire. Une députée qui a bossé sur la loi d'orientation agricole et un spécialiste des sols, Marc-André Sellos, et qui lui rappelle que non, c'est pas un truc ésotérique, pardon, mais c'est de la science. Et il s'énerve un petit peu quand il dit ça. Il dit que c'est les agriculteurs eux-mêmes qui ont expérimenté. Maintenant, c'est prouvé, et quand on étudie les sols, voilà, c'est la meilleure manière de produire à long terme. Parce que, ok, les engrais permettent de produire plus aujourd'hui, mais ça dégrade le sol, et le taux de matière organique dans les sols, notamment en Beauce, s'approche du taux de désertification. Donc on condamne les générations suivantes à pouvoir continuer à produire en utilisant massivement des intrants chimiques aujourd'hui.
Alors Marc-André Sellos, on le recevra le 28 mai.
Parfait.
Mais oui, alors puis c'est un spécialiste de la microbiologie, des micro-organismes, c'est le pape des microbes, quoi. mais c'est vrai que les microbes pourraient remplacer la chimie, et probablement qu'en 2050, si un jour on réussit à faire évoluer les choses, il faudra qu'on fasse appel aux micro-organismes pour remplacer les pesticides chimiques. Mais donc... Si tu avais un message, est-ce qu'il y a une personne à nous, comment dire, un exemple particulier, celui qui t'a le plus frappé dans...
Une ferme en polyculture élevage dans le Morbihan, à Trévéro. C'était à l'origine une ferme conventionnelle élevage laitier où il y avait un seul agriculteur. Et ils l'ont repris en collectif. Donc le collectif a pris l'eau un petit peu en début de projet. Ils se sont retrouvés que à deux. Mais c'est une ferme terre de lien. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à acheter la terre. Et donc c'est beaucoup plus accessible. Ils sont en location. Et aujourd'hui, ils ont 6 employés. Donc ça veut dire 8 personnes sur la même surface où il y avait un seul éleveur laitier à l'origine. Et ils s'en sortent parce qu'ils font de la vente directe. Et ils expliquent qu'en fait, nous, on n'a pas envie de faire de la vente directe, mais on est obligé pour l'équilibre économique. En fait, notre métier, ça nous ferait un bon 50 heures semaine, ça suffirait. Mais en fait, on est obligé de faire cette vente-là pour pouvoir être viable économiquement, de reprendre le contrôle en fait, sur la marge de leurs produits.
Oui, parce...
et ils avaient une vision mais vraiment complète sur tous les enjeux, biodiversité, climat, vision économique. Et ils ont appliqué toute cette vision-là à leur ferme pour qu'elle réponde à tous ces enjeux. Et notamment sur l'élevage, moi, ça m'a fait bouger un peu, où il expliquait que l'élevage sur leur ferme était très pertinent parce qu'il était utilisé uniquement sur des zones où on ne pouvait pas faire de la production alimentaire pour les humains. Et donc, ça permettait d'optimiser les zones improductives en mettant typiquement des vaches en fond de prairie, et puis avec quelques cochons qui se nourrissent des déchets, des céréales. Donc la production primaire, c'est des céréales pour les humains, mais il y a plein de sous-produits ou des déchets qui peuvent être valorisés par les animaux, qui sont ensuite vendus pour les humains.
Oula, t'es carrément iconoclaste, tu vas nous dire qu'on n'est pas forcé d'être uniquement vegan.
Bah, c'est sûr que... C'est un tout petit élevage, et donc on se rend compte que pour faire de la viande de qualité comme ça, on ne peut pas en manger 2 fois par jour, quoi, en grande quantité. Donc certainement manger moins, mais
manger
toujours
mieux.
En manger, c'est possible. Ouais, voilà, le moins est mieux était bien illustré par cet exemple.
Bon, bah écoute, on va pouvoir parler d'agriculture urbaine. Alors, Mokhtar, donc toi tu es prof à l'université de Paris 13, non, on ne dit plus Paris 13, excusez-moi.
Sorbonne, Paris Nord.
Voilà, Sorbonne, Paris Nord. Désolé, moi, pour moi Sorbonne ça reste dans le 5e, mais bon.
C'est ça.
Donc c'est la géographie devient élastique, quoi. Alors donc, toi ta spécialité c'est la biogéographie à l'origine, ça nous fait un point commun aussi. Et puis tu t'es spécialisé sur l'agriculture urbaine.
Aligre FM 93.1.
Exactement. En fait, je suis docteur en géographie de l'aménagement et du développement durable.
D'accord.
Voilà. Je suis plutôt spécialiste de manière globale de la végétation dans les villes, de manière globale. Donc, je parle de végétation des lignes des espèces cultivées ou voilà, non cultivées, des espèces spontanées, mais dans le cadre de l'aménagement, c'est-à-dire voir comment la végétation est intégrée dans le processus d'urbanisation. Donc ça, c'est un peu le sujet...
Ouais. Parle mieux dans le micro.
Là,
c'est bon ?
Donc c'est un peu aussi le sujet donc, de mes recherches, de ma thèse et autres. Et
alors donne-moi le titre de ta thèse, ça m'a toujours fait rigoler les titres de thèse.
C'est ça. En fait, c'est la...
Prends ta respiration.
C'est ça, non, elle est pas trop longue. C'est la végétation dans les villes sénégalaises au regard donc, des changements socio-environnementaux.
D'accord.
Donc des changements climatiques, des changements donc, sociaux, en prenant en compte l'aspect urbain, parce que je parle que de la végétation que à l'intérieur donc, des milieux urbains. Donc c'est pour ça, c'est un peu particulier, donc du coup mon travail. Et l'agriculture urbaine, donc c'est invité donc, selon cette approche-là d'espèces cultivées. Donc à partir de ce moment-là, donc, au fur et à mesure, j'ai creusé, je me suis plus ou moins intéressé donc, à cette question donc, d'agriculture dans les villes. Et avec donc, le temps, spécialiste... Oui, parce que je travaille sur plusieurs aspects par rapport à l'agriculture urbaine, mais voilà.
Alors l'agriculture urbaine, c'est pour nourrir les... T'as étudié ça dans quelle ville? À Dakar
Alors, je l'ai étudié dans l'agglomération dakaroise,
oui.
Et aussi dans trois villes secondaires, donc à Ziguinchor, qui se trouve donc dans le sud du Sénégal, à Tambacounda, qui se trouve donc dans le Sénégal oriental, et à Touba Mbaké, une ville religieuse très connue un peu partout dans le monde.
D'accord.
Et voilà, j'ai aussi monté, cette question-là aussi a été plus creusée, parce que j'ai créé une plateforme qui s'appelle Agritar, et qui est une plateforme donc, sous-régionale, ou une plateforme au sud, où on traite donc plusieurs aspects et plusieurs questions donc, liées à l'agriculture urbaine, dans les villes des pays du Sud.
Alors dis-moi tout, l'agriculture urbaine, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on voit ça depuis la France, on a un peu l'impression que c'est une histoire de bobo, ou c'est plus ou moins un hobby. Un hobby. Bon, je rappelle quand même que historiquement, on cultivait, il n'y a pas si longtemps que ça, on cultivait des poireaux et des carottes pratiquement en place d'Italie. Puis je vais vous dire, moi, ma grand-mère, elle avait une ferme au Mont Valérien, elle produisait mon arrière-grand-mère plutôt, produisait du lait, et il n'y a pas si longtemps que ça, les dernières laiteries parisiennes, notamment une qui était à Bagneux, a fermé, je crois, en début des années 60. Donc c'est pas si vieux que ça. L'agriculture urbaine existait en France jusqu'il y a 70 ans, jusqu'à l'événement de la mécanisation agricole.
Oui, en fait, c'est un peu la même chose au Sénégal aussi. En fait, là, actuellement, on assiste à un retour de l'agriculture dans nos villes, que
d'accord.
Ce soit dans les villes
voilà.
Européennes.
Il faut mieux parler de retour africaines. que de
On parle pays. Plutôt de retour de l'agriculture dans les villes. Parce que même historiquement, quand on prend l'exemple du Sénégal, bah, la plupart des grandes villes, dans ces grandes villes-là, on avait des espaces qui étaient dédiés à l'agriculture. Parce qu'il faut savoir qu'on a une population qui est... Une population à l'époque à 80-90% agricole.
Mmh, oui.
Voilà. Aujourd'hui, ça se diversifie un peu avec la tertialisation donc des activités dans les villes, sénégalais surtout. Et, mais on a encore un taux assez élevé d'agriculteurs au sein donc, de ces villes. Soit c'est directement des agriculteurs ou des activités annexes. Des activités donc en lien avec la
oui bon on a eu ça en France aussi longtemps des ouvriers paysans qui travaillaient à l'usine et qui exploitaient des petites fermes et il en reste encore notamment dans l'est de la France en Alsace partout ailleurs c'est un peu disparu mais donc c'est un fait il y a des rémanences c'est pas du tout incongru. Pour te taquiner, je voulais parler, en parlant d'agriculture urbaine, d'oxymore géographique, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas si opposé que ça.
Non, pas trop. Après, là, il faut aussi savoir qu'on essaye dans les villes africaines. C'est-à-dire là, actuellement, ce qu'on essaie, c'est de donner un regain d'intérêt à tout ça. Que politiquement, que les politiques puissent intégrer de manière complète l'activité agricole dans nos villes pour répondre à différentes questions, hein, qui sont aussi des questions liées aux agriculteurs français ou européens, de pouvoir produire à côté, d'avoir des produits frais, donc le circuit court.
Oui.
Voilà, donc on voit aussi les agriculteurs ou les consommateurs sénégalais vont privilégier, par exemple, donc pour accéder donc très rapidement à des produits qui n'ont pas fait 10 000 km pour arriver donc dans nos assiettes, par exemple.
Aujourd'hui, l'agriculture est urbaine et va apporter quelle proportion de l'alimentation à Dakar, par exemple, ou dans les autres villes que tu as étudiées?
Alors là, c'est encore un peu compliqué. Du coup, ce qu'on cherche à déterminer, en fait, c'est un peu la partie la plus compliquée dans nos recherches.
Oui.
Là, on a un nouveau projet de recherche qu'on a lancé, qui s'intitule le collectif ZAR et agriculture urbaine. Donc l'idée, c'est de voir exactement quel est l'apport de l'agriculture urbaine dans nos assiettes, par exemple. Alors, ce qui est certain, c'est que là, dans la plupart des grandes villes qui ont été étudiées dans les connaissances, c'est qu'on est à 90% de production de légumes,
oui,
qui viennent donc de l'agriculture urbaine. Quand vous prenez l'exemple de Dakar avec les Niayes, quand vous êtes à Ziguinchor dans le sud du Sénégal, où vous avez donc des bas-fonds, ou donc le maraîchage, là on est à 90% d'approvisionnement de nos des villes sénégalaises qui viennent de ces zones de production, de ces sites de production agricole en milieu urbain.
Donc 90% des légumes consommés dans les villes sénégalaises proviennent de l'aire spatiale de culture, quoi, urbaine.
Voilà. Et après, se pose la question de où s'arrête la ville.
Oui.
Donc on a cette question-là qui est une question géographique qui revient, oui, tout le temps. Est-ce que des légumes produits à 31 heures, une heure de la ville, est-ce qu'on est toujours dans
l'urbain ou pas?
Dans l'urbain ou pas. Donc d'où la définition donc, de l'agriculture urbaine. Après, on a une définition qui est commune un peu à toutes les villes, hein, qui est communément admise par les scientifiques. C'est quand on parle d'agriculture urbaine, on parle donc de produits de production destinés à la ville,
oui,
dont les acteurs viennent de la ville.
D'accord.
Ouais. Donc ça, c'est un peu la définition communément admise. Après, on a des subtilités en fonction des villes et des pays.
Mais bon, ce n'est pas qu'un jeu d'esprit, un jeu de mots, parce que quelque part, si ce n'est pas défini, ces phénomènes-là, s'ils ne sont pas définis, ils ne recevront pas de politique pour les aider. Donc effectivement, là, par exemple, je regardais un sujet qui est l'agriculture familiale. On est dans la décennie de l'agriculture familiale. Bon, personne ne le sait, mais bon, je vous révèle. Alors, quand on va sur le site de la FAO, on peut l'apprendre. Moi, c'est dans l'une de mes pérégrinations journalistiques que je suis tombé sur la chose. Mais bon, en tout cas, c'est pour 20 heures que je l'ai appris. Bon, tout ça, c'est juste pour pouvoir flécher un peu les investissements, essayer de mobiliser les gens, dont les différents fonds, pour orienter les aides. Donc c'est pas un jeu de l'esprit, quoi, quand on dit ça. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture urbaine est pratiquement inconnue des plateformes onusiennes ou internationales. Donc c'est pas des politiques énormes qui vont en leur faveur. Elles manquent de reconnaissance, il me semble. Mais bon, tu vas me le dire.
Oui, il y a ce manque-là de reconnaissance, que ce soit au niveau des politiques et aussi... même avoir des données qui sont fiables par rapport aux surfaces qui sont cultivées, aux quantités donc produites, par exemple. Et l'apport aussi de l'agriculture urbaine, donc en termes d'aliments et en termes aussi d'apport économique, hein, de voir les gens, les familles qui s'activent dans ce secteur-là. Est-ce qu'économiquement, donc, c'est viable ou pas? Donc il y a plein de questions donc, à traiter donc, sur des problématiques aussi. Mais il faut aussi savoir qu'on a trois niveaux, on a à peu près deux niveaux. On a l'agriculture intra-urbaine,
oui,
qui est très définie, donc on sait, là on est vraiment à l'intérieur de la ville. Et la question se pose pour l'agriculture périurbaine,
oui,
où on a donc campagne et limite, la lisière donc, entre la campagne,
ça, c'est une problématique d'Île-de-France extrêmement connue, Michael. On a un peu le même problème. Donc moi, je connais le triangle vert du côté de Marcoussis et de Massy-Palaiseau, de Palaiseau. Effectivement, la question, c'est est-ce qu'on va les manger pour y mettre des data centers?
Grosse question, les data centers en ce moment. On annonce x5 en puissance installée en cours de raccordement. Là.
En Ile-de-France?
Ouais.
Et sur les champs de salade, quoi.
Ouais, voire sur des forêts.
Carrément.
Ouais, bah oui. Pourquoi
donc
ça
fait...
Bah, elle se pose aussi hein, dans les villes africaines, mais pas en termes de data center, mais d'expansion donc, du bâti et du réseau vière. Mm. Donc elle se pose aussi, et de manière beaucoup plus rapide. Mm. Parce que là, on est juste sur quelques centaines de milliers de mètres carrés, mais quand on voit l'extension urbaine au niveau donc, des villes africaines, qui aujourd'hui, on est à peu près à plus de la moitié de la population donc, qui est urbaine dans ces pays-là. Mmh. Donc, que ce soit au Sénégal ou dans la sous-région sud-africaine. Mais quand on regarde, c'est des centaines et des centaines de milliers, des millions d'hectares qui sont brasés par l'urbanisation. Donc, du coup, elle se pose aussi dans ces villes.
Mais tant qu'effectivement, il n'y a pas... tant que l'agriculture urbaine reste un terme, entre guillemets, pittoresque, on ne va pas pouvoir défendre des champs, quoi. C'est aussi pour ça. Mais est-ce que ça aide de pouvoir mettre un nom sur les choses pour pouvoir justement les préserver, les protéger?
Je pense que ce serait bien. Oui. De toute façon, c'est tant que le concept il n'est pas clair, et tant que les apports ne sont pas clairement définis, ça posera toujours un problème. Mais nous, ce qu'on cherche à faire aussi, et c'est l'idée aussi de la plateforme, c'est de se rapprocher des municipalités et de voir comment on fait pour faire prendre conscience donc, aux politiques, surtout. Enfin, je parle beaucoup des politiques, parce que là, on parle de fossiles. Hein. Donc, quand on parle de fossiles, on parle forcément donc, de décisions politiques, et aussi de voir exactement quel usage donner à ces terres. Donc, ils sont à la fois des terres, forcément, oui, on va avoir des habitations, parce que voilà, on a une forte croissance démographique. Donc il faut répondre à cette demande-là aussi. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de dire aux politiques, c'est bien possible d'allier les deux. C'est-à-dire d'avoir une extension donc, de la ville et de préserver aussi le foncier pour une production agricole durable et viable.
D'accord.
Et ça permet aussi de soit... Parce qu'on a une forte part de la population urbaine qui est encore jeune et qui vient du monde rural.
Oui.
Et qui ont du mal à s'insérer dans la ville.
Donc, oui, par contre, ils ne sont pas coupés. Ils ont encore des savoirs et éventuellement... Parce que si tu me demandes, moi, d'aller planter des choux, je crois que j'ai fait ça quand j'étais gamin, mais bon, mes gosses seraient incapables de le faire, quoi. Ils n'ont pas envie de le faire, ça.
Voilà. Mais après, dans les villes africaines, c'est la plupart du temps. Hein, et après, c'est en train de changer, parce que là... On a fait une étude et on s'est rendu compte qu'en fait, on a de plus en plus de zones d'acarois, de zones urbaines, qui n'ont pas connu la campagne et qui sont actifs, très, très actifs hein, dans l'agriculture.
D'accord. Alors justement, qui sont tes agriculteurs urbains à Dakar?
Plusieurs profils. À Dakar, c'est plutôt des zones issues donc de l'exode rural. C'est-à-dire des zones qui sont... Après, bon, j'exagère quand dire des zones, mais c'est en moyenne, on est entre 20 et 50 ans.
Oui.
Voilà. Donc, c'est...
des actifs, on va dire.
Des actifs, on va dire, en fait. Qui sont plutôt issus donc, du monde rural, qui vont venir travailler à Dakar.
En tout cas, c'est pas des retraités qui cultivent leur jardin ouvrier.
On va en retrouver, pas à Dakar, parce qu'à Dakar, l'enjeu est énorme.
Oui.
Donc, il y a un enjeu économique qui est énorme. Donc, du coup, on a plutôt des gens qui sont dans la recherche donc, de profit économique. Et il y a vraiment un profit économique à se faire. Et à partir de ce moment-là, donc, la concurrence, elle est rude. Mais on va retrouver des retraités quand on va dans les villes secondaires, par exemple. On va avoir donc, plutôt des enseignants, surtout, qui, à la retraite, vont s'adonner à cette activité-là.
Donc, parce que ça leur fait un complément de revenu.
Ça fait un complément de revenu et ça aussi permet de ne pas complètement donc, se couper du monde du travail. Et
d'accord.
De pouvoir aussi... sortir un peu aussi et d'avoir une activité annexe pour pouvoir aussi se faire un peu d'argent aussi, hein, c'est clair. Oui.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, vous avez tous reconnu Billy Preston, qui nous interprétait un morceau des années 80. Nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie sur le sujet les agricultures alternatives. On vient de parler de l'agriculture urbaine à Dakar, on a un peu effleuré le sujet sur Paris. Peut-être que, Michael, tu voudrais rajouter, puisque ta double casquette de réalisateur de films sur l'agriculture biologique et puis aussi de directeur de FNE Île-de-France. Alors tu me disais que justement la question de l'artificialisation des sols était l'un des grands sujets d'Île-de-France.
C'est un grand sujet de France Nature Environnement d'une manière générale, et particulièrement en Île-de-France, avec les questions de pollution de l'air, de l'eau, des sols. Effectivement, on s'est beaucoup mobilisé l'année dernière sur le SDRIF-E, donc c'est le schéma régional qui encadre tous les PLU, en gros, à l'échelle d'Île-de-France, donc qui vont déterminer les règles d'urbanisme, et notamment le niveau de consommation de terres agricoles ou forestières. Il faut savoir qu'il y a une loi qui, normalement, protège assez bien le foncier en France, qui est le ZAN, qui est attaqué de toutes parts actuellement par des sénateurs et des parlementaires justement pour l'assouplir. Mais en Île-de-France, il y a eu une exception. On n'est pas obligé de se conformer à cette trajectoire-là. Donc nous, on a poussé pour que cette trajectoire soit respectée. On n'a pas eu gain de cause. Il y a quand même, ces dernières années, une baisse significative de la consommation des espaces. Mais on nous oppose régulièrement l'obligation de créer des logements, 70 000 logements, le chiffre qui est sorti du chapeau par un politique il y a longtemps, mais qui reste un petit peu le mantra des politiques d'aménagement aujourd'hui. Nous, on essaie de démontrer qu'il est possible de créer des logements accessibles sans artificialiser en plus. En Île-de-France, on est
la région... On peut recycler des terres déjà artificialisées, je pense.
Vu tout ce qui a été consommé ces dernières années, on est la région la plus artificialisée de loin. Pour la petite couronne, c'est 90% d'artificialisation. Il y a suffisamment de zones, de friches, 5 millions de mètres carrés de bureaux vides. Il y a un gros problème aussi de sous-utilisation.
C'est vrai, quelquefois on a l'impression que l'aménagement du territoire semble un projet shadow, des shadow, quoi. On creuse pour boucher un trou parce que on voudrait végétaliser la défense. Moi, ça me fait marrer. Franchement, la défense qui était, alors la défense, faut savoir, c'était une forêt en défend. C'est ça le sens de la défense, c'est pas... Alors ça a été un rond-point sans giratoire après, mais après ça a été effectivement devenu ce quartier d'affaires, et avec nos braves architectes qui nous ont tout minéralisé dans les années 80, tu parlais d'un pot de fleurs, on te traitait de ringard. Tu voulais planter un arbre, c'était vraiment un baba cool. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'on crève de chaud à la défense, que plus personne veut y aller, que la moitié des grandes tours sont vides, et donc le projet qui nous sort de leur sacoche, c'est végétaliser la défense. Bon, bah bravo les mecs.
En allant prélever, bien sûr, de la terre végétale dans les terres agricoles.
Ah bah ça, toi, j'avais pas pensé à celle-là encore.
ouais, c'est une problématique. Et puis, il y a la problématique inverse des terres excavées, avec notamment les travaux du Grand Paris Express, où on va faire des trous énormes pour faire passer des nouvelles lignes. Et toute cette terre-là, qui n'est pas de la terre végétale, on va aller la rebalancer en Seine-et-Marne à des endroits en payant un peu des agriculteurs pour la mélanger à de la bonne terre. Et en contrepartie, on pique la bonne terre de Seine-et-Marne pour mettre dans les pots de fleurs et les jardinières à Paris. Donc heureusement, il y a des assos qui essaient de montrer qu'il est possible de régénérer des sols issus de friches, notamment en remélangeant notamment du compost pour remettre de la vie dans la terre. Des micro-organismes, justement. Il y a Alage qui fait ça, notamment à l'île Saint-Denis, qui vient de rejoindre FNE.
Mais, une association, donc.
Oui, ils font plein de trucs, de l'insertion, à tiers-lieu, une partie culture, et puis Justement, voilà, prouver que on peut, quand on a besoin de terre végétale, on peut la faire nous-mêmes avec la terre qu'on a à dispo, en la régénérant, et notamment en développant la collecte des déchets.
C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, ça nécessite de mobiliser un peu plus de monde, peut-être d'un peu plus expliquer, de fédérer. Bon, c'est vrai que notre économie n'est pas tellement orientée sur ça. Hein.
Non, c'est sûr, réfléchir et prendre du temps, c'est pas trop dans l'air du temps.
C'est pas leur truc, quoi. Mais alors, est-ce que par hasard, on aurait quand même un peu essayé de peser la production de l'agriculture urbaine, périurbaine francilienne ? Qu'est-ce que ça pèse dans l'économie ? Ah là, il n'y a pas de stats là-dessus hein.
Ça doit exister, mais là, j'avoue, j'ai pas la réponse de ce que ça représente en Île-de-France. Mais en tout cas, en Île-de-France, il y a beaucoup de grandes cultures céréalières pour l'export. Donc,
mais ça, on va dire que c'est la grande périphérie. Ouais. Mais si on parle justement de cette zone où il y avait, où il y avait encore, il n'y a pas si longtemps, ça, j'avais vu les dernières free zones du côté de Saint-Germain-en-Laye, les vaches étaient à 20 km de Paris, hein, les premières vaches.
Bah oui, il y avait la ceinture maraîchère tout autour de Paris, qui arrivait même à produire des melons sous serre chauffés avec du compost.
Ah ouais.
Donc vraiment des trucs évolués. Mais voilà, maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, la petite couronne, c'est 90% d'artificialisation. Donc il faut commencer à s'éloigner pas mal pour pouvoir trouver des terres productives et avec une grande partie orientée pour l'export. Il y a les greniers d'abondance, c'est une asso qui bosse pas mal sur la résilience alimentaire et qui a un site super bien fait, je crois que c'est Crater, qui chiffre le degré d'autonomie alimentaire d'une région. Et la région Île-de-France, c'est évidemment une des pires pour ça, tout comme elle est très peu autonome en énergie.
Oui, mais bon, on est quand même 12 millions sur cette île. Mais donc c'est pas rien. C'est vrai que il n'y a pas les solutions à l'IAC à Faucon, ça va pas forcément le faire. Mais le déni, c'est encore pire, quoi.
Oui, c'est sûr. Mais on est nombreux, mais on est assez concentrés. Il reste encore des grandes terres, mais il n'y a pas du tout de vision de rendre la région plus autonome et résiliente en cas de pépin.
Alors, monsieur le géographe, est-ce que justement les territoires peuvent réfléchir, peuvent devenir des êtres de conscience ? Est-ce qu'il y aurait un moyen de trouver sur les espaces géographiques une façon d'essayer de penser l'avenir ?
C'est bien possible, et c'est pour ça que l'agriculture urbaine aussi s'adapte. C'est-à-dire là, on est en petite couronne, par exemple, si on est à 90% d'artificialisation, ça veut dire qu'il faut réinventer l'agriculture pour qu'elle puisse exister dans la petite couronne. Donc ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire cultiver sur les toits, et on en parlait à l'instant. Est-ce que cultiver sur des toits, est-ce qu'on est... l'objectif, c'est d'être autosuffisant en légumes, par exemple.
Mais donc,
je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir une politique de préservation et de conservation des terres agricoles à l'intérieur de nos villes, que ce soit des villes d'ici ou d'ailleurs.
Alors, est-ce qu'il y a un rendez-vous de ces agricultures urbaine, est-ce qu'il y a un horizon, quelque chose ? Est-ce que
il y a des journées qui sont organisées, des colloques. Il y en aura un bientôt sur Dakar.
Oui.
Qui
est plus proche, t'aurais pas sur Paris.
Enfin,
mais je veux bien aller à Dakar.
Sur Paris, j'ai une journée la semaine prochaine.
D'accord.
Sur le foncier agricole en ville.
D'accord.
Et on a pas mal d'exemples. Après, bon, ça reste une journée internationale,
bon,
avec des exemples un peu partout, quoi.
Ok, écoute, on va essayer de créer de l'information sur ce sujet-là, sur le site de l'émission. Écoute, il nous reste, je vous remercie beaucoup de cette heure passée ensemble. Et puis maintenant, je vais remercier nos amis de la technique, Renaud Poussin et puis Armand Gury, qui nous ont permis de produire cette émission et de traiter de ce sujet un peu incongru quand même, agriculture urbaine, c'est quoi ces paysans à la ville. Allez, en tout cas, je vous souhaite tous une bonne semaine et puis à bientôt.
À bientôt, merci.
Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.